Notre rendez-vous mensuel avec Braise Europe Finistère, une association qui nous fait vivre l'Union européenne, qui nous fait comprendre l'action de l'Europe et son impact sur notre quotidien. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui généralement rassemble davantage les Européens plus qu'il ne les divise, la culture. C'est avec Maël Cordeau, le président de l'association, qui nous emmène de Brest à la Serbie.
Depuis quelques jours, nous savons que la ville de Brest est retenue donc avec 9 autres villes françaises pour obtenir le label de capitale française de la culture en 2022. Donc les résultats seront prononcés au printemps et il n'y aura bien sûr qu'une ville gagnante. Ce label a été lancé par le ministère de la Culture donc il y a quelques mois et le but c'est de valoriser les territoires et les pousser à se dynamiser encore grâce à une enveloppe d'1 million d'euros, il me semble. Et par ailleurs, en tant que Breton et Bretonne fiers de notre région, on va pouvoir soutenir justement la ville de Brest et montrer l'engagement, notre engagement auprès du jury final qui se tiendra fin mars.
Oui, dans le cas de Brest, donc c'est un label qui s'appelle Capitale Française. Est-ce que c'est l'équivalent de celui qui avait été lancé par l'Union européenne ?
Alors, pas tout à fait. Effectivement, il en existe un dans l'Union européenne et celui-ci depuis 1985. Donc, ça fait déjà longtemps. Et donc, ce label avait été lancé sous l'impulsion de la ministre de la Culture grecque, entre autres. Et donc, Athènes était devenue, donc en 1985, la première capitale européenne de la culture, donc à ce titre. Et on peut le dire, c'est une des dénominations les plus prestigieuses qui soit pour la culture sur le continent. À côté de ça, il y a d'autres labels qui existent, comme celui de la capitale verte européenne, par exemple. Et si, toujours pour parler de culture, on parle souvent de, on associe souvent culture et Union européenne avec le sujet des journées européennes du patrimoine, qui ont lieu donc chaque année en septembre. Mais il existe aussi beaucoup d'autres événements et appuis financiers.
Et donc, depuis quand est-ce que l'Union européenne s'intéresse au milieu culturel ?
Elle s'y intéresse, elle l'a vraiment ancré depuis 1992. Mais effectivement, c'était compliqué au départ d'intégrer un tel domaine à un projet qui était, comme on le sait, exclusivement économique et qui reposait surtout sur la création d'un marché commun. Et donc, en 1992, avec le traité de Maastricht, on a souhaité apporter un nouveau souffle à l'Union européenne. On en avait parlé avec la citoyenneté européenne. Et le traité a aussi apporté une relative politique sociale, attention relative, la création du comité des régions et un nouveau partage de connaissances. Donc ça a donné un nouveau souffle et ça a un peu changé le visage de l'UE. Et c'est dans ce cadre que la culture devient aussi un enjeu plus important. Et donc les États et la population européenne aussi ont toujours eu le sentiment que leur culture avait un poids important dans le monde et qu'ils avaient un fort patrimoine culturel. Et en fait, il s'agissait dès ce moment d'en prendre soin et surtout de le promouvoir. Et donc, il y a des grands axes qui ont été définis dans les traités, les textes de loi. Et donc, on peut en citer quelques-uns d'ailleurs. Donc, le but, c'était de vraiment contribuer au développement économique des secteurs culturels, renforcer le sentiment d'appartenance à un héritage culturel commun, comme souvent. Faciliter l'accès à la culture sur le territoire européen et aussi participer au rayonnement de la culture européenne à travers le monde. Donc les États se sont mis d'accord autour de ces grands principes.
Et autour de quels moyens d'action concrets les États se sont-ils organisés pour défendre la culture au sein de l'Union européenne ?
Alors malheureusement, les États ont fait le choix d'adopter une politique assez sommaire. Ils n'ont pas souhaité déléguer leurs compétences en la matière à l'Union européenne. Les États restent les principaux acteurs dans le domaine, mais l'Union européenne n'est pas juridiquement contraignante et ne peut donc vraiment pas forcer les États à adopter telle ou telle mesure pour la culture. Mais globalement, les États mesurent le poids qu'ont leur culture et s'engagent quand même dans cette voie et dans la promotion culturelle et patrimoniale. Et c'est ce qu'on voit avec ce nouveau label français de la capitale culturelle française et qui existait d'ailleurs déjà en Italie et au Royaume-Uni.
Donc les États n'ont pas d'obligation, ça on l'a compris, mais est-ce qu'il existe des aides européennes pour promouvoir la culture ?
Oui, c'est ça. Il existe quand même des aides. Par exemple, toutes les aides sont regroupées dans l'enveloppe de la commissaire européenne bulgare, donc Maria Gabriel, qui a sa charge l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse. Et donc, elle a un large champ de compétences qui a d'ailleurs été allongé en 2019. Toutes les commissions étaient rassemblées en une. Et donc, ça lui permet de proposer et de renforcer les politiques de ces domaines. Et par exemple, elle dispose de l'enveloppe revalorisée d'Erasmus+, donc qui est aussi un véritable atout dans le cadre de la politique culturelle de l'UE pour la jeunesse. Et aussi, dans ce portefeuille, donc, il y a une enveloppe qui est dédiée au programme Europe Créative. Donc, c'est une enveloppe qui a été revalorisée aussi et qui, pour la nouvelle période 2021-2027, s'élève à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Donc, c'est bien que l'Union européenne s'active sur le domaine de la culture. Il y a aussi d'autres moyens. Mais ce programme Europe Créative permet aussi de soutenir les emplois liés au domaine de la culture. Et surtout, il y a toute une partie qui permet d'appuyer le cinéma européen. Dans ce cadre, il y a aussi le Parlement européen qui a créé le prix Lux. Donc c'est un prix qui peut être remis donc pour toutes les créations cinématographiques européennes. Et ça a été le cas pour les films comme Sammy Blood ou alors Dieu existe, son nom est Petrunia. Deux films qu'on d'ailleurs on a présenté aux Finistériens et Finistériennes en ciné-débat. Et en plus maintenant, le prix Lux, les votes sont remis donc aux députés européennes et européens et aux citoyens et citoyennes européens.
Comment est-ce que le rayonnement de la culture européenne se traduit ?
Alors, de différentes manières. Tout le monde connaît l'Eurovision qui est donc née en 1956, mais il faut surtout préciser que l'Eurovision, ce n'est pas une démarche de l'Union européenne. Donc le rayonnement de la culture, il passe par cet événement. Et donc à l'époque, l'idée c'est des dirigeants politiques du continent, c'est de créer du lien entre les Européens. Après, c'est devenu le concours de chant le plus suivi au monde. Et il y a aussi, pour son côté artistique, bien sûr, mais il y a aussi tout un intérêt géopolitique parfois qui s'esquisse plus ou moins par rapport au vote, etc. Et c'est intéressant. Mais dans l'Union européenne, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a le label Capitale européenne de la culture qui est né en 85. Et donc là, les villes ont pour obligation de rendre un rapport à la fin de la période du label. Et donc là, avec ces rapports, on s'est vraiment rendu compte que ce label était un vrai catalyseur culturel et surtout que ça permettait de vraiment attirer beaucoup les touristes.
Comment ça fonctionne, ce label ?
Alors, donc le but, c'est, comme je le disais, toujours de renforcer, mettre en lumière la diversité européenne, développer les villes et créer du lien entre les Européennes et les Européens. C'est aussi revaloriser la ville des habitants donc à leurs yeux, et donc stimuler le tourisme, évidemment. Donc, les villes peuvent se présenter donc au niveau national et dans leur pays, donc auprès du ministère compétent. C'est pas forcément le ministère de la culture, c'est un ministère très français. Et donc, les villes qui gagnent disposent de 4 ans pour planifier leur projet avant l'année effective. Donc, par exemple, pour 2021, donc il y a eu 2 villes qui ont été sélectionnées, donc une ville roumaine et une ville grecque. Et la nouveauté de 2020, c'est que maintenant des villes de pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne peuvent se présenter. Donc cette année, c'est la Serbie, 2021, c'est la Serbie qui aura une ville comme vitrine de la culture européenne. Donc ces villes, en fait, une fois qu'elles ont le label, elles ont une large gamme de possibilités. Elles peuvent faire des événements, des concerts, du théâtre, des expositions, vraiment plein de choses. Par exemple, en 2019, c'était la ville de Plovdiv, donc la deuxième ville de Bulgarie, qui a presque 700 000 habitants, qui était capitale européenne de la culture. D'ailleurs, la ville a proposé plein d'expositions, par exemple une exposition thématique sur le développement de la ville à travers l'industrie du tabac, ce genre de choses. Donc il y avait environ 500 événements. Et donc le but, la ville avait axé vraiment son objectif sur créer du lien intergénérationnel, ranimer la culture, transformer les lieux culturels oubliés. Et donc il y a vraiment eu des centaines de milliers de visiteurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, si je peux me le permettre, c'est adresser un message aux jeunes qui nous écoutent, parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à Plovdiv pendant cette période, et dans le cadre d'un échange Erasmus+. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte que les deux, donc le label et Erasmus+, sont vraiment complémentaires et permettent de célébrer la diversité européenne. C'est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs le slogan de l'Union européenne, unie dans la diversité. Et donc, si on on a la possibilité, avec la crise, j'invite les jeunes à se rendre en Erasmus, s'ils le peuvent, en Roumanie, en Grèce et en Serbie en 2021, parce que c'est vraiment intéressant. Et en ce qui concerne la France, ça peut nous intéresser. Elle aura une ville donc désignée capitale européenne de la culture en 2028. Et il y a déjà des villes candidates, il y a Saint-Denis, Strasbourg. Et je me disais, puisque Brest peut gagner peut-être le concours national, pourquoi pas se doter d'une ambition européenne pour 2028.
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur la politique européenne culturelle ?
Pour résumer, comme je le disais, l'Union européenne n'a pas le pouvoir de légiférer de manière contraignante en matière culturelle, mais elle peut quand même participer au rayonnement de ses États membres grâce à plein de dispositifs. On en a cité pas mal, mais on peut aussi rajouter la Nuit européenne des musées ou encore la Nuit européenne des chercheurs. Il y a aussi la fête de la musique qui est devenue une fête vraiment d'envergure européenne. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'Union européenne a adopté la politique qu'on pourrait qualifier de la carotte à destination de ses États membres, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent pour faire des choses et donc ça pousse les États à agir en faveur après de la promotion culturelle.